L'émission. Sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Pour notre émission du LEM Sport en ce mois d'avril, nous vous proposons une émission où nous parlerons beaucoup des Jeux paralympiques. Nous serons en première partie d'émission avec Hugo qui a interviewé Camille Guillou, chargée d'animation et de développement au comité départemental handisport du Finistère. Ce sera l'occasion d'aborder du point de vue local les retombées de la prochaine Olympiade.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Transistor pour le LEM Sport. Et en ce mois d'avril, on monte tout doucement en pression avant les Jeux paralympiques et olympiques de Paris. Après de 3 mois de la fameuse échéance, nous recevons aujourd'hui Camille Guillou, en charge du comité départemental handisport du Finistère. Dans cet entretien avec elle, nous allons décrypter son rôle. Camille nous parlera également de la préparation des Jeux et de ses attentes, avec notamment le fameux projet Ambassadeur 24, sans oublier un coup d'œil sur l'actualité locale du moment au niveau handisport. Bonjour Camille, et merci à toi d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour Hugo.
Alors Camille, pour démarrer cet entretien avec toi, est-ce que tu peux rapidement te présenter à nos auditeurs et nous expliquer ton rôle au sein du comité départemental handisport du Finistère ?
Bien sûr, donc Camille Guillou, je suis chargée de développement au niveau du comité handisport du Finistère. Donc notre objectif, c'est vraiment de développer la pratique pour les personnes en situation de handicap physique, visuel et auditif, que ce soit dans des clubs handisport ou dans des clubs ordinaires, et tout ça sur l'ensemble du département.
Personnellement, depuis combien de temps es-tu en charge de ces missions?
Alors moi, je suis à handisport depuis presque 15 ans. J'ai d'abord été bénévole, puis salarié du club handisport Brest, avant d'être salarié au niveau du comité départemental handisport du Finistère.
Très bien. Alors en 2023, Camille, avec d'autres départements handisport, vous avez lancé le projet Ambassadeur 24 Club de Demain, notamment à l'occasion des futurs Jeux paralympiques. Peux-tu, là encore, nous présenter ce projet?
Alors, le projet Ambassadeur, c'est un projet qui a été monté dans le cadre des Jeux paralympiques, mais aussi dans le cadre du travail autour du bénévolat avec Handisport. L'objectif étant de prendre un petit peu le recrutement plutôt des bénévoles dans l'autre sens. Souvent, on attend que les bénévoles viennent nous voir et après, on leur affecte des missions en fonction de leurs appétences, leur motivation. Et là, on s'est dit, on va faire le chemin inverse en préparation justement de tout ce qu'il y avait, de toute l'émulation qu'il y avait autour des Jeux. Et on va aller proposer aux jeunes de se former au bénévolat et aussi à leurs parents sur des projets en fait qui les concernent. Donc on a choisi des projets support qui sont 3 séjours adaptés sportifs, un séjour montagne qu'on vient de réaliser là en février avec des Savoyards, un séjour à la mer qu'on a réalisé l'été dernier et le prochain séjour aux Jeux paralympiques. Alors, en fait, c'est 24 enfants qui sont issus de 3 départements, la Savoie, le Morbihan et le Finistère. Et l'objectif, c'est qu'ils travaillent ensemble pendant 2 ans avec donc leurs parents, mais aussi leur fratrie, pour organiser ces séjours, organiser des journées de découverte, des journées autour du bénévolat, de la formation, etc. Et donc, qui se saisissent un petit peu de l'opportunité de savoir comment on monte un projet. Ce dont on a besoin, tout ce qui est chiffres, tout ce qui est recherche de financement, tout ce qui est communication, organisation, adaptation, recherche d'activités sportives, etc. Donc c'est vraiment un projet qui permet aux enfants et aux parents de mesurer un petit peu le travail qu'on fait en back-office et de se motiver aussi pour l'avenir à essayer de nous donner un coup de main et s'investir dès le plus jeune âge dans les associations handisport avec un bagage, en fait. On leur remplit leur sac à dos de plein de compétences différentes qu'ils pourront réutiliser dans leur activité sportive, mais aussi dans leur vie quotidienne et éventuellement dans leur future vie professionnelle.
On a bien compris à travers tes explications au niveau de ce magnifique projet que beaucoup de personnes étaient mobilisées avec l'idée de compétences un peu transversales, de domaines différents. Est-ce que tu peux nous évoquer le processus de sélection des familles, des bénévoles, mais aussi des jeunes? Comment ça s'est déroulé, en fait? Est-ce qu'ils ou elles étaient volontaires ou est-ce que vous êtes allés les démarcher?
Alors, on s'est dit qu'on allait faire comme dans le milieu professionnel, parce que l'objectif, c'est aussi de leur donner confiance, même avec leur handicap, et donc de se dire qu'un jour, ils seront confrontés à cette fameuse lettre de motivation, à ce fameux CV, à ce, à cet entretien éventuellement. Donc, on a fait un lancement en fait d'inscription avec lettre de motivation obligatoire. Et donc, ils avaient une deadline à respecter pour pouvoir, en tout cas, postuler sur ce projet. Et donc, derrière, on a fait une sélection. Alors, la sélection a été assez facile dans le sens où naturellement, les enfants étaient au nombre de personnes qu'on recherchait. Donc, il y avait juste une personne en plus qu'on a pris parce que le dossier était super intéressant. Et donc, ils se sont prêtés au jeu. Ils ont postulé. On a refusé tous les dossiers qui étaient post-date, par contre. Et donc, derrière, les familles ont été recrutées comme ceci, comme dans une entreprise.
Il y a ce processus de recrutement d'un côté, mais il y a aussi sans doute la coordination entre les départements, puisque il s'agit du Finistère, du Morbihan et de la Savoie, si je ne m'abuse. Comment elle s'organise, cette coordination entre les départements, pour que le projet ait pu voir le jour et se concrétiser derrière, notamment avec les séjours?
Alors après, on travaille très très bien avec le département du Morbihan et de la Savoie. On se connaît depuis longtemps. Donc, on a une organisation avec les salariés, les chargés de développement. Il y en a dans chaque département. Donc, c'est nous qui menons ce projet. On en est responsable. On en est responsable aussi du budget, des actions qui sont menées pendant les séjours, mais aussi entre les séjours, les actions de formation, etc. Donc, chacun a un rôle différent. Certains sont plus sur le marketing, la communication, d'autres sont plus sur l'organisation de séjours, d'autres sont plus sur les animations entre les séjours. Donc chacun, en fonction des appétences et compétences, réalise leur mission tout au long de cette session de 2 ans. Là.
On est à un peu moins de 3 mois des Jeux et puis ce projet a été lancé désormais il y a plus d'un an. Peux-tu nous faire un premier bilan? Tu évoquais tout à l'heure les séjours que vous avez pu réaliser. Quel bilan en fais-tu pour l'heure?
Eh ben, on est très surpris parce que c'était vraiment c'est un projet un petit peu, c'est très novateur. On ne l'avait jamais essayé. C'était très ambitieux, notamment de par le budget, de par l'engagement que ça amenait pour nous, mais aussi pour les familles. On est ravis parce que en fait, tout le monde a joué le jeu. Toutes les familles ont joué le jeu, d'aller justement nous aider à rechercher des financements, d'aller mener des actions de sensibilisation dans les écoles pour les enfants, d'aller activer un réseau autour de leurs communes, autour de leurs associations locales. C'est vraiment ce qu'on voulait, créer un maillage territorial. Et puis, on a des enfants qui, naturellement, aujourd'hui, lèvent la main pour être bénévoles lors de nos manifestations sportives. On a des familles qui commencent à bien se connaître et à bien s'entendre et du coup aussi à créer un petit groupe de futurs bénévoles, mais qui, avec des liens aussi qui vont un petit peu plus loin que uniquement le bénévolat. Et je pense que ça, c'est hyper important. Si les gens viennent faire du bénévolat, c'est aussi pour être avec des gens, avec d'autres personnes qu'ils apprécient. Donc, c'est ce qu'on souhaitait. Et puis, concernant les séjours, c'est gagné parce que les Savoyards, il y en avait plein qui n'étaient jamais venus pratiquer des activités sur l'eau. Et nous, encore moins, nous Bretons, à la montagne. Donc, le sourire, on a des vidéos là, le sourire des gamins qui n'avaient jamais vu la neige, qui ne pensaient jamais pouvoir skier, même en fauteuil, avec des sensations, des souvenirs qu'elles ont vécu lors de cette... de cette colo qui sont fantastiques pour eux et pour nous. Et ils nous le rendent bien parce que voilà, ils ont fait des gazettes pour les familles pour expliquer un petit peu ce qu'ils faisaient tous les jours. Et là, on les prépare aussi pour les Jeux parce qu'ils vont vivre quand même un événement extraordinaire que d'aller sur les Jeux paralympiques à Paris. Ils le vivront probablement une seule fois dans leur vie, en tout cas en France. Et donc l'objectif c'est qu'ils ne soient pas juste spectateurs. On veut les rendre acteurs et puis aussi communicants pour les autres familles ou les autres enfants qui n'auront pas cette chance d'aller vivre les Jeux en direct. Donc, ils auront tout un travail de gazette pour les jeunes qui resteront dans les centres de rééducation pédiatrique ou éventuellement même les familles. On aura des petits spots de communication sur les réseaux sociaux parce qu'ils ont créé leur propre page Facebook et leur propre compte Instagram. Ils ont plein de choses encore à apprendre avant les Jeux pour qu'ils soient le relais du territoire. Et on trouve hyper important que ça soit les jeunes qui parlent à d'autres jeunes. Ça a beaucoup plus d'impact, en tout cas pour nous.
On a bien compris que c'était un échange culturel et sportif véritable pour ces jeunes. Tu as évoqué l'idée d'être un relais, notamment pour d'autres jeunes qui n'auront pas la chance d'être sur place durant ces Jeux. Pour celles et ceux qui le seront à Paris, qu'est-ce qui va les occuper principalement? Tu as parlé de la communication. Quels vont être les autres événements principaux pour elles et eux?
Alors, on va commencer par la cérémonie d'ouverture. Hein, donc, on reste une semaine présent sur place. Donc, cérémonie d'ouverture. Et puis, chaque jour, on a un sport différent. Donc, on a fait le planning en fonction aussi de la présence des Bretons et des Français sur chaque discipline. Donc, on espère pouvoir vibrer avec les résultats de nos Bretons et des Français chaque jour. On va essayer aussi d'aller faire une visite au ministère des Sports, si c'est possible, en fonction de leur planning pendant les Jeux, parce qu'on va loger juste à côté. On a l'objectif aussi d'aller au Club France, voir ce que justement à quoi ressemble un Club France et aller à la rencontre aussi des athlètes de haut niveau. Et puis derrière, on va essayer de voir un petit peu aux fonctions, à l'opportunité. Si on a le temps, on fera un petit peu de visite culturelle, mais les journées vont être très, très bien remplies. On connaît le côté énergivore des transports à Paris et donc on s'adaptera aussi au rythme des enfants parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont des enfants.
Ça va être passionnant de suivre tout ça. On imagine effectivement que ça va être très, très chargé, mais riche en émotions et en souvenirs pour tous ces jeunes. Je voudrais qu'on se mette maintenant sur une échelle un peu plus générale, puisque ces fameux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, ils approchent à grands pas. Si tu devais faire un peu l'état des lieux de l'handisport français à ces quelques semaines, quelques mois de l'échéance, qu'est-ce que tu dirais? Est-ce que pour le moment, on a l'idée d'entamer ces Jeux d'une manière positive ou au contraire, est-ce que là, on est dans la phase où il y a de la crainte, il y a de la pression, il y a du stress ou au contraire, est-ce que c'est plus de l'adrénaline?
Alors, je pense qu'il y a un peu tout ça mélangé. Les sélections ne sont pas tous tombées et c'est ça la difficulté aujourd'hui, c'est que certaines sélections courent jusqu'à juillet. Donc, juillet, c'est la veille hein, pour même si c'est au mois d'août. Donc, il y a quand même beaucoup de stress dans cette dernière partie. Surtout pour ceux qui n'ont pas encore leur ticket et qui sont dans les phases encore de sélection. Maintenant, au niveau français, il y a eu des championnats du monde qui viennent de s'écouler. Il y a eu des très bons résultats dans certaines disciplines, le paracyclisme. Il y a eu des choses intéressantes en natation. Donc, je pense que on n'est jamais très prêt. On n'est jamais prêt à 100% et une délégation française. Surtout pour nous en e-sport, c'est du multisport, donc c'est encore différent. Il y a des sports qui sont forcément meilleurs que d'autres, avec plus d'expérience, avec plus de chances de médailles. Ça reste des jeux en France, c'est particulier, c'est les jeux à la maison, c'est parfois plus difficile que les jeux à l'étranger, parce qu'il y a aussi toute la pression familiale qui peut exister pour les athlètes, avec tout le public qui sera beaucoup plus un public affectif que d'habitude. Hein. Donc faire plaisir et remercier tous ses proches. Peut-être que pour certains athlètes, ça risque d'être compliqué à gérer. Maintenant, ils sont préparés à tout ça. Hein. Ils ont de la préparation mentale, ils ont des stages au préalable. On va dire que ça va le faire parce qu'il faut que ça le fasse de toute façon.
Oui, ça va le faire. Et puis, le peuple français sera bien évidemment derrière toutes et tous les athlètes. C'est une évidence. Si on devait là parler, non pas forcément d'un objectif de médaille, parce que c'est quelque chose d'un peu erroné, et puis tu l'as expliqué, l'aspect multisport fait que ça a moins de pertinence que pour les Jeux olympiques, mais tout simplement des Jeux paralympiques sur un plan sportif réussi. Qu'est-ce que ce serait? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'on puisse dire à la fin, c'est un succès?
Alors, j'ai plus en tête, parce qu'il y a des objectifs hein, quand même de médailles, il y a des objectifs de top, je crois que c'est de top 10. Là, j'ai pas les chiffres en fait, pour la simple et bonne raison que ça, c'est vraiment géré par la cellule performance au niveau de notre fédération et en lien avec le ministère. Eux ont leurs objectifs, en fonction de chaque discipline sportive, en fonction de chaque athlète et aussi pour la délégation paralympique dans son ensemble. sachant que la délégation paralympique pour les Jeux, elle n'est plus gérée par les fédérations, elle est gérée par le Comité paralympique sportif et français, le CPSF, qui lui prend en main en fait cette délégation pour les Jeux. Donc c'est un multiple strat. Dans tous les cas, il faut toujours faire mieux qu'au jeu dernier. Donc c'est ça plutôt l'objectif. Et puis après, nous, si c'est plutôt sur le Finistère, l'objectif, c'est d'avoir le maximum de sélectionnés déjà dans un premier temps, et avec une population aussi de sélectionnés qui se rajeunit. Donc c'est aussi intéressant pour l'avenir, et pour donner un message aux autres jeunes en disant c'est possible, avec du travail, vous pouvez y arriver.
Tu nous as expliqué, même avec cette dernière réponse, Camille, que beaucoup de processus de sélection étaient encore en cours. Comment est-ce que cela se déroule? Est-ce que il y a des athlètes qui actuellement, notamment dans le Finistère, sont en train de jouer leur dernière chance ou leur batou pour se qualifier? Qu'est-ce que cela représente concrètement pour eux?
Alors en fait, chaque sport a ses process de sélection pour les Jeux paralympiques, donc ils sont différents d'un sport à l'autre, notamment en e-sport. Et donc avec des deadlines qui dépendent aussi des compétitions internationales de référence qui rentrent dans le processus de qualification. Donc en fonction des calendriers, c'est pour ça que chacun ne reçoit pas sa qualification au même moment. C'est un enjeu parce que ceux qui sont déjà sélectionnés peuvent apprécier la sélection et derrière se préparer pour rebondir pour être prêts pour fin août. Et puis ceux qui sont encore en course, parce qu'ils sont quand même assez nombreux, pour certains, ils sont dans le process de sélection et d'attendre de savoir s'ils vont avoir leur place. Et puis dans certaines disciplines, ils sont encore dans la recherche de quotas. Donc, c'est en grosso modo le nombre de places qu'on va attribuer à une délégation dans chaque sport. Et donc ça dépend des résultats en fait, de chaque pays sur des compétitions de référence. Et donc ça peut arriver au compte-gouttes, comme ça peut arriver d'un coup. Donc c'est hyper aléatoire. Donc forcément, pour certains, ils vont être dans les starting blocks jusqu'à la fin. Et donc, avec une période très courte entre la phase de sélection et la phase des Jeux. Et pour d'autres, il y a un peu plus de temps.
On imagine, bien entendu, beaucoup de tension, mais aussi d'enthousiasme avant ces périodes et ces enjeux qui sont très forts. Mais comme tu as pu nous l'expliquer, il y a de la préparation, qu'elle soit mentale et physique, qui est mise à la disposition de ces athlètes. À ton niveau, personnellement, là, avant ces Jeux, qui sont un événement unique, puisque probablement que ça n'arrivera qu'une fois dans le siècle pour ce qui est des Jeux d'été, qu'est-ce qui, toi, te rend la plus enthousiaste? Qu'est-ce que tu as envie de voir en premier lieu pendant ce moment estival?
Clairement, alors moi, j'ai fait les Jeux de Londres, j'ai fait les Jeux de Rio aussi, en accompagnement de groupes, mais d'adultes. Moi, ce qui me fait vibrer, c'est forcément de vivre cet événement avec d'autres, d'autres personnes avec qui on travaille au quotidien, avec des enfants qu'on a vu grandir aussi au niveau d'handisport, donc de pouvoir leur faire vivre déjà un événement international et donc toutes ces émotions mélangées, mais aussi on va aller voir des athlètes, des jeunes qu'on a accompagnés depuis des années, qui aujourd'hui sont là en tant qu'athlètes et à la recherche de médailles. Donc c'est aussi la fierté de pouvoir voir un petit peu l'accomplissement de ces jeunes, de ces athlètes dans leur projet personnel. Donc c'est hyper chouette. Et puis si on peut chanter la Marseillaise, bien évidemment qu'on ne se privera pas de la chanter.
On ne va pas se priver, évidemment. On sait qu'il y a de très nombreuses chances de médailles et que probablement tous ces athlètes vont nous épater. On a bien sûr hâte de voir ça. Pour conclure cet entretien avec toi, j'aimerais quand même qu'on évoque l'accessibilité et l'héritage sur ces Jeux paralympiques. D'abord, donc, cette question de l'accessibilité. Est-ce que tu estimes, de ce que tu sais, en étant impliqué dans un certain nombre de points sur l'organisation et la participation à ces Jeux, est-ce que tu estimes que la France est plus ou moins prête?
Alors, je ne voudrais pas avoir les ministères sur le dos, mais non. Je pense qu'en termes de transport, ça va rester compliqué. En termes d'accessibilité à Paris, si on reste sur vraiment la capitale, On est sur une ville qui n'est pas simple à rendre accessible, et notamment dans les transports en commun. Nous sommes par exemple encore dans l'attente de savoir comment on va pouvoir se déplacer avec un public, avec un groupe de jeunes en situation de handicap. Je reste perplexe sur le fait qu'on puisse accéder facilement aux transports en commun sans trop de difficultés. Sur ce point-là, je ne sais pas si on est vraiment prêt. Sur le plan sportif et culturel, je pense que oui, parce que la France avait bien travaillé son dossier les Jeux ont déjà été accueillis il y a 100 ans. Il y a des événements internationaux qui se passent en France et en général qui se passent bien. Donc, j'ai moins de doutes là-dessus. Après, on voit quand même que sur les territoires, on commence à voir un petit peu déjà le fait que l'effet boule de neige, que les territoires s'interrogent un petit peu aussi sur leur ouverture au sport, sur leur accessibilité, sur la place du handicap dans les entreprises, dans les écoles, etc. Donc, j'espère en tout cas que ce n'est pas qu'un effet feu d'artifice de l'année 2024 et que tout ne va pas retomber, que tout ne va pas fondre comme neige au soleil, on va dire, en septembre, et que derrière, la France va être capable de se remobiliser pour maintenir les postes qu'ils ont créés dans le sport et handicap, qui vont pouvoir maintenir toutes les actions qui se sont passées dans les collectivités, dans les associations sportives, dans les entreprises, etc. Et puis qui vont pouvoir continuer de s'interroger sur, en effet, la véritable accessibilité. Mais l'accessibilité, ce n'est pas que l'accessibilité matériel, l'accessibilité, c'est aussi rendre accessible le sport, la culture, rendre tout accessible, on va dire, mais pas forcément, on pense pas forcément rampe, on pense pas forcément transport, et c'est ça qu'il faut avoir en tête, on va dire.
Oui, l'accessibilité est un sujet global et complexe qu'on abordera de nouveau, sans aucun doute, avec toi, Camille, sur Transistor dans les prochains mois. On te souhaite d'excellents Jeux paralympiques et olympiques. On le souhaite également à tous les enfants et à toutes les familles impliquées dans le projet Ambassadeur 24. Évidemment, Transistor vous tiendra informé. Quant à nous, on se retrouve au mois de mai avec une surprise sur l'Ebsport. Et Fred, dans un instant, poursuit avec sa météo. Merci Camille et à bientôt.
Merci Hugo, à très bientôt.
À bientôt.
Merci Hugo pour cette rencontre avec Camille Guillou. C'était l'occasion de parler Jeux Paralympiques sur Transistor. Et dans cette suite du LEM Sport, on va rejoindre Fred tout de suite et on va parler là aussi Jeux Olympiques.
Et oui, mon cher Pierre-Yves, pour cette météo du mois d'avril, il sera question de géopolitique.
Oula, qu'est-ce que tu veux dire par là ?
Eh bien, il sera question des JO donc, mais sur fond de polémique qui enfle à cause des risques géostratégiques et politiques entourant la cérémonie d'ouverture. Pourtant, sur le papier, tout est magnifique, comme ce jour du 14 septembre 2017 à Lima, où la France vient de se voir décerner le soin d'organiser les JO en 2024, et de quoi redorer l'honneur et la fierté de tout un peuple. Mais voilà, passé l'euphorie du moment, le contexte mondial et sociétal a bien évolué depuis 7 ans, entre une guerre qui frappe aux portes de l'Europe, un embrasement de la zone du Moyen-Orient, et depuis quelques mois, une menace terroriste réactivée sur notre territoire. Tous les voyants sont donc au rouge, tant la menace est sérieuse. Et tous les regards du monde entier sont désormais portés sur notre capitale, avec un choix du lieu de la cérémonie d'ouverture prévue le 26 juillet prochain qui fait débat.
Alors si je ne me trompe pas, lundi matin, Monsieur le Président de la République a évoqué des plans A et des plans C, mais alors on sait finalement comment ça va se dérouler ?
Eh bien, en fait, alors jusque-là, le scénario A voyait la cérémonie d'ouverture se dérouler sur les quais de Seine. Position maintenue depuis des mois envers et contre tous par notre Président, ne semblant écouter que lui-même. Mais voilà, depuis lundi, la position de notre président a effectivement changé. La situation est trop risquée, et face au danger de voir ce moment d'universalisme se transformer en tragédie devant les yeux de 4 milliards de téléspectateurs, un scénario B a été envisagé avec une cérémonie qui se déroulerait dans un site plus restreint comme le Trocadéro, voire un plan C qui imagine un repli au Stade de France. Bref, c'est le cafouillage, et la France tremble, Pierre-Yves.
D'autant plus qu'au Stade de France, à ce moment-là, le jour de la cérémonie d'ouverture, il y aura déjà eu des matchs de rugby. Bref, alors toi, t'as trouvé une solution ?
En effet, les évadés du sport ne pouvaient pas rester silencieux et résignés face à cette fatalité de voir cette fête populaire mondiale se transformer en fiasco. Il nous fallait donc aller sur place pour nous rendre compte par nous-mêmes. Et c'est avec beaucoup d'audace que nous avons arpenté les rues parisiennes il y a 10 jours, puisque nous avons testé pour vous le marathon de Paris. Et non, ce n'est pas une blague. Tout comme 55 000 autres sportifs amateurs et professionnels, j'ai tenté cette mythique épreuve dans une communion collective entre des milliers d'athlètes et une foule compacte amassée dans les plus beaux endroits de Paris. Champs-Élysées, Trocadéro, Concorde, Quai de Seine. Et répartis sans vis continuer le long des 42 km du parcours pour encourager les coureurs venus de tous les horizons de la planète. Comme quoi c'est possible de réunir des milliers de personnes autour d'une compétition sportive dans les rues de Paris. Et cela, sans le moindre heurt, bien au contraire. Bon, alors pour moi, l'aventure s'est arrêtée au kilomètre 17. La faute à une blessure au genou contractée 3 semaines avant l'épreuve et qui me laissait guère d'espoir sur mon sort. Mais qu'importe, l'essentiel était de participer et de donner le meilleur de moi-même, tout en essayant de profiter du cadre majestueux offert par ces instants de sport au sein de la plus belle ville du monde. Bon, certes, j'ai laissé un genou, mais qu'importe, l'essentiel était là. J'avais pris le départ du marathon de Paris sans encourir le moindre danger. J'y suis venu et j'ai vu. J'ai vu le dépassement de soi. J'ai vu les valeurs du partage et de la communion entre les êtres, indépendamment de leurs opinions, origines, religions ou couleurs de peau. J'ai vu qu'il est possible de se réunir à plusieurs centaines de milliers de personnes autour des valeurs du sport sans le moindre incident. J'ai vu la beauté du sport à travers le dépassement de soi chez ces milliers de coureurs convergeant ensemble vers un même but, une même ligne d'arrivée en gagnant ainsi l'estime d'eux-mêmes et le respect de spectateurs admiratifs devant les performances de ces anonymes. J'y ai vu tout simplement la magie du sport et de la liesse populaire.
Alors t'as pu voir un petit peu l'envers du décor, alors comment ça se passe à Paris, c'est prêt à accueillir tout ce beau monde ?
Eh bien, figure-toi que mon expérience a permis de soulever un autre problème, plus insoupçonné et pourtant bien réel, et ce depuis très longtemps. Incapable donc de courir au-delà du kilomètre 17, totalement handicapé par un genou devenu trop douloureux, il allait falloir désormais trouver une solution pour moi pour rejoindre mes proches, m'attendant à la ligne d'arrivée avec mes affaires. Et là, c'est un second marathon non moins difficile qui a commencé pour moi. Premier métro à 5 km. Autant dire 5 km de bonheur, ou devrais-je dire de douleur, à marcher tant bien que mal le long de l'hippodrome de Vincennes. Sur les trottoirs, dans les escaliers, les escalators et les méandres du métro parisien totalement saturé de monde. L'ambiance était irrespirable. Et là, j'ai galéré. Ah oui, parce que vous ne le savez peut-être pas, mais le métro est quasiment inaccessible pour les personnes en situation de handicap. Et notre président l'a rappelé lui-même à la télévision cette semaine, l'accessibilité des transports pour les JO de Paris ne sera pas du tout assurée. Voilà donc une autre menace qui plane sur les Jeux et qu'il faudrait aussi peut-être prendre un jour au sérieux, au risque de passer cet été pour des crétins aux yeux du monde entier.
Ben merci beaucoup Fred pour ce côté revers de la médaille, puisque tu as participé au Marathon de Paris. Voilà, c'est une belle expérience quand même.
Ouais, modeste, mais très belle expérience.
Voilà. J'ai testé pour vous aussi les métros surchargés.
Ouais, et ça c'est vraiment compliqué. Et on pense même que pour peut-être les Jeux Paralympiques, parce qu'on les accueille aussi, ça risque peut-être d'avoir comme conséquence que des athlètes pourraient rester bloqués dans les transports.
Voilà, et puis de toute façon, ce n'est même plus un secret de polichinelle qu'on va totalement se prendre un gadin là-dessus, sur l'accessibilité aux Jeux Olympiques. On en parlait même en fin d'interview avec Hugo et son invité Camille Guillou. Voilà, le LEM Sport pour cette semaine, c'est terminé. Un grand merci à Hugo et son invité Camille Guillou, chargé d'animation et de développement au comité départemental handisport du Finistère, et à Fred pour son billet d'humeur. Prochain rendez-vous du LEM Sport dans un mois sur les antennes de Transistor.
LEM, l'émission, sur Transistor, creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.